podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique. Tommy Godette au micro, très content de vous retrouver pour une troisième semaine d'affilée. On va retourner, je pense, explorer avec notre Sphinx le bloc Odyssée avec le Mirari, hein, les différentes factions de couleurs qui sont en train de se chicaner. Vers quoi qu'on va aller aujourd'hui, Jason?
Et aujourd'hui, on se plonge dans Torment, février 2002. C'est le set noir.
Et voilà, c'est un autre épisode de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On a sorti l'escadron de la fine équipe pour compléter ça avec Andy Jao, que je prédis que son statut de Magic Arena est pas mal similaire à la semaine dernière.
Probablement, mais dans la tourmente, j'ai décidé... Ça dépend du set de Ixalan. On verra, là. Ça se peut que s'il me fait vraiment chier, j'annule tout.
Arena quantique, genre, tu sais, il est installé en n'étant pas installé.
C'est l'arena de Schrödinger.
C'est ça, exactement. Notre bon Emmanuel côté Séguin, bonsoir.
Je suis là, j'ai amené tous mes tourments avec moi.
Ah ben voilà, j'ai l'impression que ça va être utile aujourd'hui. On s'en va dans les cauchemars, si j'ai bien écouté. Jonathan Joy Gauthier, spécialiste de trames sonores. De quoi qu'on écoute aujourd'hui?
Hey, ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est Jason a fait comme, hey, tu sais ton chill wave, là on joue noir aujourd'hui, sors-moi quelque chose qui un petit peu plus dark.
Qui mort.
Mort. Fait qu'on est allé sur Dead of the Brain 1 et 2 sur PC Engine. Un bon petit classique, c'est si vous aimez lire beaucoup, c'est en japonais, fait qu'essayez de trouver le fan translation de ça. Mais je constate l'histoire est bonne, ça a bien vieilli.
Si tu réussis à la lire.
Chris, que c'est geek.
Après, le japonais. Hein.
Et bien entendu, notre bon François Lompré, hein, mascotte.
Salut les magiciens et les magiciennes. Notre, ça va bien, tout le monde.
Notre bon patriarche. Ben oui, ça va bien. Content de t'avoir là. Puis j'en profite. Écoute, j'aurais peut-être dû te remercier il y a deux semaines, là, mais t'as passé l'entièreté de la duémoscopie avec moi. On avait récolté à l'époque 3 100 $ pour InfoSect en écoutant des cochonneries d'Éric Duhem.
Ça fait des semaines que c'est passé.
Je ne l'ai pas du tout dans le corps encore. Mais bon, pour l'instant, on est réunis tout le monde ici au Musée de l'Absurde. C'est un plaisir, messieurs. Et on va continuer à faire ce que j'adore le plus, moi, dans Terrain Basique, de voir des lores, toute l'histoire qui imbrique ces cartes que j'ai tellement jouées et tellement fait chier des gens avec. Hein. Je me rappelle pas les fois que c'est moi que ça faisait chier. C'est un truc de gagnant. Là-dessus, mon cher Jason, c'est avec grand plaisir qu'on te passe la POC pour retourner dans Torment, la deuxième étape de l'aventure.
Passe-nous à la suivante, s'il te plaît. Torment est sorti en 8 février 2002. Et c'est encore la même gang là, qui ont fait Odyssée. Donc Mark Rosewater, hein, j'avais parlé de Randy Buehler et compagnie. Là, ce qu'ils voulaient faire comme concept pour Torment, c'est vraiment comme un peu expérimental et ils se sont un peu pété les dents avec ça. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont jamais refait après.
Ils ont décidé
de débalancer les couleurs. Fait que le set de Torment, c'est un petit set de 143 cartes. Oui. Merci. 143 cartes et ils voulaient se concentrer beaucoup sur le lore de la cabale hein, que j'ai parlé la semaine passée. Et pour notamment amener la nouvelle mécanique qui fait son apparition dans Torment, c'est-à-dire la mécanique Madness. Je vais en parler dans quelques minutes.
C'est cool.
Et les couleurs ennemies du noir étant le blanc et le vert, c'est ces couleurs-là qui vont manger la claque. Torment, dans le fond, enlève beaucoup de vert et de blanc et à la place met plus de cartes noires.
Quand on dit plus, c'est combien plus?
J'aurais dû me le noter, mais c'est vraiment, vraiment plus.
Deux ou trois, là.
Non, c'est vraiment plus. Ça. C'est d'une...
En pourcentage.
Je pense que c'est de 20 à 30 cartes de plus noires que les autres couleurs. C'est vraiment... Puis non seulement... Notable. C'est qu'en fait, le set, la façon dont ils se draftaient, c'est que tu pouvais drafter du mono noir. Et sinon, tu avais tout le temps un splash noir.
Ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup... On va voir, là, il y a beaucoup de cartes bleues, rouges, vert ou blanc... qu'il y a un second casting cost là, dans l'habilité d'activation.
Ça se peut que des fois noir. Le flashback soit d'une autre couleur.
Exactement. Donc, il y avait tout le temps... Dans le fond, si tu draftais Torment, Ben, ça se draftait, c'était deux paquets de Torment, un paquet d'Odyssée. Okay. C'est sûr que tout le monde autour de la table avait du noir dans son deck.
Okay.
En théorie.
Ça, c'est comme concept limité.
Comment?
Ça a-tu fonctionné? Moi, j'étais pas là dans le temps.
Ben, moi, de ce que, moi non plus, j'étais pas là. J'étais au cégep.
Vas-y, dans mon sac d'amis, en tout cas, le monde aimait ça jouer noir. Fait qu'ils ont trippé pas mal. Là.
Moi je me rappelle, en fait, ce que le magasin où j'allais, c'était le donjon. Il est fermé à cette heure. Mais à cette époque-là, ce qui revenait, c'était que le noir avait été comme reconnu comme étant pas assez fort. Puis là, il avait comme fait du rattrapage, puis il avait sorti des cartes pour essayer de contrebalancer le fait que le noir était la couleur la moins forte. Mais j'aime mieux ton explication, c'est comme story-based, là, plus que peut-être.
C'était peut-être un mélange.
Ben, parce que le noir, on l'a vu dans nos épisodes, j'avais fait, tu sais, dans Urza Saga, il y avait des gros decks noirs forts, là. Moi, je pense que c'est vraiment, ils ont essayé quelque chose, puis clairement, ils voulaient aussi l'essayer, qu'éventuellement, il y aurait chaque set aurait sa couleur.
Wow. Voilà. Voilà.
Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils ne l'ont jamais refait depuis parce que ça causait de problèmes de débalancement.
Ben, si ils l'ont dit que le but pour garder ça en vie, c'était du draft. Puis c'est comme,
ben, c'est ça, il y avait
c'est
pas
comme
de draft,
Joe il a dit, tu peux pas.
Oui, il y avait du draft.
Ah oui,
ben, il y a du draft depuis tout le temps, l'on peut.
Le draft, ça a commencé avec.
Première fois que j'ai joué à Magic, moi, c'était un draft de Ice Age en 95. J'avais gagné avec le bateau pirate.
C'est le skeleton ship.
Ouais, c'est ça.
On passe à la suivante.
Oui.
Fait que pour pousser le noir, hein, même les. Non, excusez-moi. Donc, on est toujours sur le continent de Otaria. Hein,
je ne vais pas mélanger avec l'Ontario.
Merci. Donc, c'est le continent de l'Otaria qui est à l'ouest de Terizior et de Latnam. Et c'est là que toute l'histoire du bloc Odyssée se passe. On passe à la suivante. Pour pousser le noir, t'as les fameux Tainted Land de Torment. C'est une série de land, c'est les dual land de Torment. C'est que, dans le fond, il te fait un mana, par exemple le Tainted Field, il te fait un mana blanc ou noir si t'as un swamp en jeu. Le Tainted Isle, il te fait un mana bleu ou noir si t'as un swamp en jeu. Le Tainted Peak, il te fait du rouge ou du noir si t'as un swamp en jeu. Le Tainted Wood, un noir ou un vert, si t'as un swamp en jeu. Puis si t'as pas de swamp en jeu, ben ton Tainted Land, il te fait juste du mana colorless.
Au moins, il te fait du mana.
C'est pas pire. Au moins, il te fait du mana, mais je veux dire, tu sais, comme ça. Faut
ça
que tu
fixe
joues,
pas ta couleur, mais.
Faut que tu joues un swamp le premier tour.
Oh, ouais. J'avoue qu'au draft, ça doit être pas chiant, t'as dit. C'est le premier qui pogne toutes les bonnes cartes noires qui gagne.
Ben, moi, ce que Tainted Field, ben, le Tainted Cycle, c'est des lands que personnellement j'aime beaucoup, mais j'ai vu tellement de joueurs sacrés parce qu'ils checkent pas leur land base.
Puis là, il y a un jeu, puis là, il passe la couleur, là, mais il l'a
si
pas.
Si on la retourne récemment, il y a quelques semaines, le cycle de land, c'était les Filter Land qui ne comptent pas comme étant des Basic Land. Mm-hmm. Fait que souvent, le monde arrive, puis ils font comme ah ouais, je joue deux couleurs, puis ils mettent toutes les lands spéciales qui n'ont pas les Basic Type. Ils se ramassent là-dessus, puis ils font comme ah.
Bon, mais j'ai du colorless.
Il y a des colorless. Ça fait partie des lands qui sont souvent réimprimés dans des pre-con que j'aime bien voir.
Ouais. Puis moi, ce que j'aime de ça, puis c'est que ça rend. En fait, c'est que, tu sais, comme les dual lands, c'est tout le temps le plus gros prix de ton deck, là. C'est d'essayer de te trouver des double lands pour tes couleurs. Et l'existence des tainted lands de Torment rend en sorte que. Si tu veux comme commencer budget là, c'est avec des dual lands, ben tu te mets des tainted lands. Puis dans le fond, ça va te forcer à jouer du noir, mais tu sais, comme au moins ça te donne accès à une suite là, de
dual lands. Oui, puis c'est dans les lands cheap qui rentrent pas en jeu tapé. Ouais. Parce que souvent, c'est ça le problème.
Ouais, ouais, ouais. Puis qui n'est pas inutile, tu sais, je veux dire, est utile même si t'as pas ta soif.
Toi, Tommy, t'as beaucoup de tainted. Je pense justement pour cette raison-là, t'as acheté une grosse batch, fait que tous tes decks ont du noir, fait que ça te permet de jouer 4.
Moi, ça a tout été le noir, ma couleur préférée. Puis c'est ça.
Tu te rappelles-tu combien de Tainted Land à peu près, toi? T'as-tu comme 4 fois chaque, mais plusieurs fois?
Ben, plusieurs. Ben, mettons des noirs et blancs, puis des noirs et verts, je n'ai moins, vu.
Ouais,
c'est ça, c'est ça que je fais dans la vie. Mais les Tainted Island, je dois en avoir au travers de mes 30-40 decks, je dois en avoir 20-30 facile. Ouais, cool. Tu sais, même affaire pour les Tainted Peak. Là. Mon deck de chien, il y en a 4. Ouais. Dans mon deck de vampire, il y en a 4.
Ouais.
Dans mon deck de Diablo aussi, il y en a 4. C'est super bon.
Es-tu le seul qui est niaiseux de voir que blanc puis bleu est à gauche, puis rouge puis vert est à droite de noir? C'est weird.
C'est à cause de l'ordre du color wheel. C'est la même chose que les mana symbols dans le titre.
Casting costs. Excuse,
je viens d'arnaquer.
C'est une très bonne observation. En fait, c'est que ça prouve que ce n'est pas mis au hasard.
Non, non, non.
Il y a un ordre qui est respecté.
Fascinant.
Fascinant. On passe à la suivante.
Fascinant.
Donc, écoute.
Hostie, ouais, ça.
Dans Torment, dans Torment, on continue à avoir du flashback puis du threshold. Hein. Dans le threshold, deux cartes qui étaient très jouées et qui sont encore très jouées, dont, notamment pour du deck de Reanimator. Le putride Imp, un noir pour un 1-1, que tu peux gratuitement discarter une carte pour lui donner Flying until end of turn. On s'en fout d'y donner Flying. Il est juste là pour mettre ta main dans le graveyard. Et une fois qu'il y a très chaud, là, il est plus un, puis il peut pas bloquer. Mais comme j'ai dit, on s'en fout. Le but, là, c'est que tu joues Putrid Imp au 1 et t'envoies ta main dans le graveyard. Puis là, tu commences à t'amuser. Notamment les decks là, de... Je vais en parler un petit peu plus tard. Les Cabal Ritual, hein, c'est le Dark Ritual de
bon,
Bloc d'Odyssée. C'est un Dark Ritual, mais pour 2. Il fait 3 mana noirs. Mais si t'as très chaud, il te fait 5 mana noirs.
Quand même.
Hein. Ça arrive souvent.
Ça va vite.
Ouais, c'est ça.
On passe à la suivante. T'as aussi le dans le fond chaque couleur, comme j'ai dit, a du noir. Puis c'est dans le fond la gamique, c'est que c'est de la cabale parce qu'ils ont le Mirari. Ils commencent à avoir l'influence sur l'ensemble du continent de Otaria. Ouais. Et c'est le bon vieux la bonne vieille gamique de la corruption. Fait que t'as comme un cycle de quatre rares dans chacune des couleurs qui sont des possédés. Comme le nomade possédé, hein. Que tu vois, il peut pas. C'est juste un 3-3 qui a vigilance. Mais si t'as très chaud, tu peux lui donner plus 1 et il devine pour détruire une créature blanche en payant 2 colorless, 1 noir. Calais. Le Haven possédé, hein, il est flying 3-3. Et si t'as très chaud, tu peux encore là. Tu payes 2 colorless, 1 noir pour détruire une créature bleue. Dans le fond, tu sais, il trahit sa couleur. Le centaure possédé, c'est la même chose. Un 3-3, il détruit une créature verte. Qu'est-ce que tu dis?
Le Haven possédé, l'illustration de
Scott
Fisher. Je veux voir ce vieux film-là italien des années 80.
j'aime vraiment le l'œil d'aigle rouge. Là,
ouais.
Allez voir ça, Possessed Haven. Là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On passe à la suivante. Et t'as aussi l'introduction de la mécanique Madness. C'est dans le fond le gros truc.
Ça, là.
Que Torment amène sur la table. Hein, parce que dans le fond, Torment, c'est la cabale prend comme le contrôle de Otaria. Et comme tout le monde commence à devenir avoir des problèmes de santé mentale, parce qu'ils ont des cauchemars. Il y a beaucoup de cauchemars. Fait que la mécanique Madness fitait vraiment bien avec toutes les discards qu'on avait dans Odyssey. C'est-à-dire que c'est une façon de réduire le mana cost. Comme Obsessive Search. Juste pour un bleu, tu piges une carte, mais aussi Madness, un bleu. Tu sais, ça gère bien, mais moi, ce que j'aime, c'est le Fiery Temper, qui est le Lightning Bolt du set. Il coûterait 3 pour faire 3 de dégâts où tu veux, mais pour Madness, un rouge. Fait que quand tu discartes, tu payes un rouge. Fiery Temper.
Ok, c'est ça l'explication de Madness. C'est que quand tu discartes, tu peux payer quoi pour utiliser.
Ouais.
Mais je trouve que le Fiery Temper, là, le dessin, là, il ressemble dangereusement à un gobelin, par exemple.
Oh.
C'est vrai. Il a mal lu sa description qu'il n'y avait pas de gobelin dans le set.
C'est juste parce qu'il a un gros nez.
C'est juste pour ça.
Ouais, mais c'est pas un barbare.
Fait que dans le fond, la mécanique Madness.
C'est un nez.
Non, mais gobelin.
La mécanique Madness, c'est que si la carte que Madness se fait discarter, tu peux, au lieu de la discarter, tu la castes pour le prix du Madness. Le Basking Root Waller, là, les decks là, d'aggro vert. Toi, c'est un 1-1 pour un vert, tu peux payer 2 pour lui donner +2/+2, mais son Madness, c'est 0. Fait que si tu le discartes, tu peux le caster pour gratis.
C'est vraiment pas payé.
On a vu dans les dernières semaines beaucoup de cartes qui te permettent de discarter pour gratuit.
Sans payer.
Fait que c'est la grosse mécanique de Torment. On passe à la suivante. T'as aussi. J'ai mis un cycle ici. Là, ça, c'était. Tu vois, c'est le deck de David Humphrey. Il a fini deuxième au World Championship de Berlin en 2003. Et c'est un deck de Madness. Dans le fond, là, t'as la carte Aqua Moeba dans Torment, qui est juste un genre de Beast 1-3 pour 2. Fait que, tu sais, t'as la casse tour 2. Ton Aqua Moeba, là, tout ce que tu veux, c'est discarter des cartes. Yeah. Tu peux discarter une carte gratuitement avec pour switcher son Power Toughness. Et là, c'est là que tu sais, t'as Circular Logic, qui est le counter spell de Torment, qui se casse pour un bleu à Madness. Ou la carte vraiment. Ça, c'est une des cartes les plus fortes à l'époque. Le Deep Analysis. Ouais. Ça, là, c'est vraiment simple. Ça coûte 4 pour piger 2 cartes. Mais jamais tu vas payer 4. Parce que son madness, c'est 2 et 3 de vie que tu dépenses.
Ouais, c'est pas un madness, c'est flashback.
Ah, c'est flashback, excuse. Ouais, oui, il est flashback. Mais là, c'est ça. Fait que tu le mets dans ton graveyard, tu payes flashback 2 plus 3 de vie, tu piges 2 cartes. Ça va vraiment bien ensemble. Et le Worm Arrogant, hein, pour 5, c'est un 4-4, mais jamais tu vas payer ça. Madness 3. Fait que tu le discartes tour 2 avec ton Aqua Mobuba, tu payes 3 parce que t'avais mis du ramp. T'as un 4-4 là, vraiment tôt.
Ah, Colin, que tu places à ben oui.
Ouais. Fait que ça, c'était vraiment fort. Le Aqua Mobuba, comme j'ai dit, là, tout ce qui sert, c'est discarter des cartes pour payer le madness. Mm-hmm. C'était un deck très fort à l'époque. Je vous porte attention, le Deep Analysis, qui est vraiment le fun. Ça, on veut du lore que peu de gens vont remarquer. Là. Ouais. On voit sur la carte deux céphalides qui ont
une
demandé,
d'opération. C'est quoi la bébite?
C'est le Masticor. Tu passes à la suivante. On voit qu'ils sont en train d'observer un Masticor. Hein. Le Masticor, c'est un running gag de Pro Tour. C'est que le Masticor sorti dans Urza Destiny, une des fameuses cartes qui fait que le Urza Saga était trop fort. Le Masticor sorti dans Urza Destiny en 99, ça n'avait pas de sens cette carte-là. Pour 4-4 pour 4, au beginning de ton upkeep, faut absolument que tu discartes une carte. Hein, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Et sinon, tu peux payer 2 colorless pour faire pigner un où tu veux. Fait que tu payes 4, tu pignes de 2. Et il est regenerate.
Pas derrière.
Ah oui, c'est ça. C'est une créature, mais tu sais, ça wipe le board. Le Masticor était une des créatures les plus jouées à l'époque. Fait qu'ils ont mis comme running gag que dans Torment, on voit deux céphalides qui décortiquent un Masticor.
Quand il est sorti du Pro Tour, ils l'ont tué puis ils l'ont disséqué pour être sûr de pas
ce qui est drôle de la carte Deep Analysis aussi, c'est que ça a l'air d'un, tu sais, comme deux extraterrestres qui checkent une bébite, mais d'habitude c'est l'extraterrestre qui se lit.
Hey, lis-nous le flavor text de Deep Analysis, Tommy.
The specimen seems to be broken. Le spécimen semble brisé.
Ouais. En effet, il n'est pas régénéré.
C'est un beau clin d'œil avec la carte est broken. Ouais. On passe à la suivante. On va s'en aller. En fait, là, c'est ça encore. Là, tu sais, j'avais parlé. Torment a permis de recommencer à avoir des decks rouges forts parce qu'il y avait Fireball que j'ai parlé il y a 2 semaines qui a flashback. En deux. Oui, il y avait un petit boost qui avait plus de deck rouge.
Non, c'est pas ça. C'est pas le petit symbole à côté de Fireball.
Ah, ça, c'est le. C'est le flashback. Toutes les cartes flashback. Toutes les cartes flashback, ils mettaient la pierre tombale à côté
de lui. Écoutez l'épisode.
C'est ça. Fait que là, t'avais avec Fury Temper, puis Violent Eruption, hein, qui est ça, c'est, ça fait 4 de dégâts que tu divises comme tu veux, que tu payes en Madness 3. Ça, c'était les decks rouges à l'époque. On voit un paquet de nains puis de barbares qui ont vraiment l'air de la misère. Je vous porte attention que le nain sur Violent Eruption, il y a une éruption de magma dans les gosses.
C'est vrai.
Il y a la fourche en feu.
Il y a une éruption violente.
Sa vie ne sera plus jamais pareille.
Slide suivant. OK, je vous porte cette... Ça, c'est une carte de Odyssey. C'est le Obstinate Familiar. C'est vraiment niaiseux, là. C'est un pour un pour un rouge. Ça fait en sorte que si tu piges une carte, tu vas... Si tu piges une carte,
tu peux skip ce draw.
Tu peux faire un ne pas piger.
J'ai essayé de comprendre à quoi ça servait. J'ai pas trouvé. Désolé. Mais c'est une rare. Hein?
Écrivez-nous.
Ouais, tu devais être déçu quand tu pigeais ça. Quand tu pigeais ça, tu devais être vraiment déçu.
Et puis c'est un rare. Hein?
Ah non, c'est malade. Tu joues ça, tu sais, avec. C'était quoi les affaires que tu disais que ça réduit ton hand size.
Ouais.
Puis après ça, tu joues pour plus piger de cartes.
Fait que là, tu piges plus de cartes.
Ouais.
Après, mais t'as pas plus de ça.
Ah, ça, c'est mon combo. Hein.
Ok, ouais, c'est bon.
Là, tu joues Battle of Wits.
Ton adversaire Underworld Dreams, t'es content de faire ça. Tu piges plus, mais tu sais, il y a d'autres moyens de jouer des cartes rouges dans le rouge. Hein.
Il y a un point.
Des cartes qui forcent à faire piger.
Mais parce que ça affecte pas ton adversaire. Fait que pourquoi tu voudrais faire ça?
Ah, c'est mauvais.
C'est vraiment mauvais. Mais moi, la raison pourquoi je l'ai mis là, je porte attention à vous sur le dessin. Regardez le dessin.
Nielsen.
C'est parce que la carte, c'est le lézard hein, qui est sur l'épaule d'un. On voit une espèce de magicien avec une genre de cape noire. Moi, je suis sûr que Tommy est capable de nous deviner qu'est-ce qui se passe sur cette carte-là.
C'est Jace.
Ben non, c'est pas Jace, c'est un Grim Lavamancer, c'est sûr.
Pense à la carte suivante. C'est que dans Torment, une des meilleures cartes dans le rouge.
Ah, ben oui.
C'est le Grim Lavamancer. Remarquez sur son épaule, il y a le lézard qu'on voyait tout à l'heure. Le Grim Lavamancer, c'est un 1-1 pour un rouge. Et là, tu sais, une fois que tu as rempli ton graveyard, parce que tu joues Burn, là, tu payes un rouge, tu le tapes, tu enlèves deux cartes de ton graveyard pour faire bon. Deux de dégâts où tu veux. Ça, c'est vraiment, vraiment fort. Ah, et oui. Je pense qu'à partir de que Grim Lavamancer qui est apparu dans Torment en 2002, toutes les decks de Burn, pas mal là. Moi, je le joue en pré-moderne. Là. C'est vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. C'est, t'es tout le temps en train de faire du burn avec. J'ai closé plein de games avec mon groupe.
Du repeatable effect, c'est toujours bon.
C'est ça. Tu peux réutiliser tes lightning bolts.
Puis je trouve ça awesome que sur son épaule, il y a
le petit lézard.
Merci, Jason. J'avais jamais remarqué cette affaire-là.
Ouais.
Ah, fait que là, c'est cool parce que le Grim Lavamancer, quand il burn le monde, il peut choisir de pas piger.
C'est vrai.
Ça sert à rien.
Il y a même pas de...
On va déchiffrer l'énigme.
Si vous savez à quoi Capitulin Familiar sert, écrivez-nous.
Ben, c'est sûr que c'est pour bypasser des decks de mille qui font piger plein de cartes.
Je vais demander à Mark Rosewater.
Il y a déjà eu un deck qui tuait tout le monde, puis c'était avec des... Wheel of Fortune là, que tu faisais à répétition, que tu allais rechercher dans ton graveyard. Fait qu'avec ça, t'es immunisé contre ça.
C'est une carte de sideboard.
C'est ton familier de sideboard. On passe à la suivante.
Je dis pas que c'est bon, là. Je dis que c'est à ça que ça sert. Sinon, on est rendu.
Mais moi, je suis partant pour qu'on la pose la question à Marc.
Ben oui, gênez-vous pas si vous avez d'autres hypothèses qu'on a peut-être pas remarquées ici à terrain basique. En attendant, ben, on va s'en aller vers la carte de la semaine. Encore une fois, une présentation de l'adversaire, Pub Ludique 4303 Sainte-Catherine-Est. On va écouter une petite tranche de Beat à Bone, puis on jase de l'autre bord. Hey, je m'en vais là-dessus. C'est quoi aujourd'hui? Ben oui, c'est Breakthrough. Quelle excellente carte. C'est tellement, tellement sous-estimé, cette carte-là. Que ce soit juste une uncommon en plus, c'est capoté. Là. Tu payes un bleu, puis tu peux triggerer et piger quatre cartes. C'est un bleu plus X. Puis ça, ça fait que tu piges quatre cartes, puis après ça, tu gardes seulement X cartes dans ta main. Fait que si tu veux être sûr de tout garder les cartes que tu vas piger, il faut que tu payes 5 mana. Mais payer 5 mana pour piger 4 cartes, c'est vraiment comme un très, très, très bon deal. Puis là, après ça, sinon, ben, tu peux juste... Moi, souvent, c'est juste le triggerer piger 4 cartes. Parce que dans mon deck de slush, j'ai un autre deck de 1000 comme ça. C'est juste... Quand tu trigger de piger 4 cartes, il arrive des affaires. Fait qu'après ça, juste pour un bleu, je peux piger 4 cartes. Puis après ça, j'ai jette. Mais moi, je voulais juste triggerer de piger des cartes. C'est vraiment une des meilleures cartes pour piger des cartes,
Puis si t'as le lézard, t'es pas obligé de piger 4-4.
Ouais. Effectivement.
Tu peux juste discarter ta main.
Ouais. Et donc, the ideas came flooding in so fast that they couldn't all be contained. Les idées s'en venaient tellement vite que je pouvais pas toutes les garder.
C'est pas un hasard que le artwork te ressemble un peu.
Ouais, c'est vrai.
Un petit peu, peut-être.
Moi aussi, je l'ai utilisé, celle-là, dans un deck d'enchantement que dans le fond, c'est ça. Tu mets tous tes enchantements au graveyard et tu les ramènes avec Replenish. Hein?
Ouais, exactement. Écoute, il n'y a pas beaucoup de cartes dans. Parce que c'est juste un. Dans le fond, là, ce que tu veux, c'est jeter 4 cartes dans ton graveyard.
Ben, peut-être.
Tu piges 4 cartes. Si tu as du mana, c'est encore mieux. Mais pour un seul bleu, il n'y a pas grand-chose qui a autant de meilleurs coûts bénéfices. C'est pour ça que Breakthrough est très joué encore aujourd'hui dans Vintage et Legacy. Si tu passes à la suivante, Tommy, je veux juste
mentionner qu'il faut payer le X avant de piger les cartes. Là. Tu peux pas dire je vais checker mes cartes et après ça décider combien de X je vais payer.
Faut que tu casses ton sort.
Avant. Il était notamment les decks de Madness et Threshold. Il jouait toutes 4 Breakthrough pour pouvoir qu'au tour 1, t'envoies 4 cartes dans ton graveyard. Non, c'est exactement.
Tour 1, t'envoies genre 10 cartes dans ton graveyard.
Oui, mais je veux dire, comme ça en fait partie. Ça, c'est le deck de Raphaël Lévy au World Championship 2002. Et sinon, j'en ai un autre exemple après ça. Breakthrough est très joué dans les decks de. Ce qu'on appelle les decks de Dredge. Et t'as même des decks de Dredge qui ont aucun land. Fait que la mécanique Dredge venait dans Ravnica City of Guilds, sorti en 2005. C'était que, dans le fond, si t'as une carte qui a Dredge dans ton graveyard, tu peux, à la place de piger une carte, tu te milles, par exemple, s'il y a Dredge 5, comme le Stink with Imp, tu te milles de 5, puis après ça, tu prends la carte, tu la mets dans ta main, la carte qui a Dredge. Ton but, là, c'est de grossir ton graveyard. Puis là, pour t'assurer d'avoir des cartes qui ont Dredge dans ton graveyard, ben, tu joues Breakthrough. Fait que c'est pour ça que cette carte-là voit beaucoup de jeux, puis qu'elle coûte quand même des sous. Si tu nous passes à la...
Là, lui, il arrête pas de dire que vous êtes obligé de mettre les 4 cartes dans votre graveyard, mais vous êtes pas obligé, là. Vous pouvez payer du mana aussi pour garder les cartes, là. Le mana, c'est meilleur que juste glisser des cartes dans son graveyard, le Breakthrough, là.
Non, je suis d'accord avec toi.
Mais avec Madness, par exemple.
Si je viens de te rip.
Par exemple, là, tu payes 2. C'est comme un gros scry. Hein?
Hey, c'est mon deck de slush.
Ouais, j'ai mis à l'écran. On a le deck de slush de Tommy qui, dans le fond, c'est que tu milles l'autre à chaque fois que tu piges une carte.
Ouais.
Fait que tu veux jouer au Breakthrough. Hein? Et je vais juste vous donner un exemple à quel point c'est bon. Tu sais, tu payes, mettons, 2, un bleu puis un colorless. Tu piges 4 cartes. C'est comme si tu faisais un gros scry. Là, tu t'en regardes une. T'envoyer le reste dans le graveyard.
Ben, ça, si t'as pas de carte dans tes mains. Là.
Tellement de plaisir avec ce deck de slush-là. On est tellement.
Toi, t'as du plaisir.
Toi, t'as du plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pas de fun pantoute.
Moi, j'ai aucune opinion sur
les, les deux cartes ici qui peuvent tuer. Tout le reste, ça sert juste à être poigné dans slush. J'ai fait attention de mettre des snow covered aussi, juste parce que. C'est
juste
un deck
pour
de
la thématique.
On est tous poignés dans la slush à pousser le Winnebago.
Est-ce que c'est Jace sur l'illustration en haut?
Oui.
C'est ton deck.
Ouais.
C'est tout le temps Jace.
Et donc voilà, Breakthrough. Ben oui, Jason m'a demandé de choisir une carte de Torment. Puis je pense que j'ai tout de suite dit, man. Puis là, tu sais, j'ai appelé mon agent. J'ai dit, non, raccroche ton téléphone. Parle pas à Tokyo. On a géré.
Cancel
puis,
tout.
Cancel et tout. C'est ça. Qu'on rappelle Rio de Janeiro. On a trouvé la carte de la semaine. C'était Breakthrough cette semaine. Merci beaucoup tout le monde. Là-dessus, ben, on va réécouter une petite tranche de beat à bonde, là. Puis je sais bien pas ce qu'on va faire de l'autre bord.
Du lore.
Et sapristi, hein?
Chainer, toi, chose.
Toi, oui, il est démenu. Je check-y à la face, comment il a l'air content.
Il a fouette dans le...
Ouais, c'est Chainer,
il a une chaîne. Il a ses goggles de cabaliste.
Oui, de Demonchess Summoner. Ouais, écoute, on va aller voir c'est quoi. C'est que ça parle de quoi, Torment? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la cabale sont soudainement full puissant? Parle-nous ça, Tommy.
On y va.
Vous vous rappelez, la semaine passée, je parlais le Mirari, hein?
Je m'en rappelle comme si c'était tantôt.
Oui. Le Mirari, qui est l'espèce de MacGuffin là, de l'histoire de Odyssey, qui est une espèce de sphère magique super puissante.
Oh, c'est malade, ça donne First Strike pour 5.
Non, ça copie les spells. Mais le Mirari, dans Torment, dans le fond de Torment, ce qui se passe, c'est que la Cabale sont ceux qui ont mis la main sur le Mirari et s'en servent pour avancer leur shit. Et un de ceux dans la cabale qui va se mettre à dire « Hey, j'aimerais ça me pogner le Mirari pour moi. Hein? » C'est le personnage de Chainer qu'on va voir. Avance-nous ça, Tommy.
C'est ce qui est cool.
Avant ça, je veux mentionner, dans Torment, t'as la carte Cabal Coffer.
Oh, Chris,
vous avez probablement entendu parler.
C'est très bon.
Ben Cabal Coffer, qui est un land, tu payes 2 colorless puis tu fais un mana noir pour chaque swamp que tu contrôles. Bien. Je vous porte attention que ce land-là, ce que ça représente, c'est là où ce que la Cabal garde le Mirari.
Ah.
Si tu regardes en bas à droite carte Cabal Coffer, il y a la Mirari dans le cadre de porte là, qui s'en vient probablement le chercher. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Deep within the Cabal's vault, the Mirari pulsed like a dead sun and its darkness radiated across Otaria. Profondément sous la voûte de la Cabal, le Mirari pulsationnait comme un soleil mort et sa sombreté irradiait partout Otaria.
Fait que c'est pour ça que le noir est vraiment fort dans l'histoire de Torment. C'est que c'est là la cabale, ils servent du Mirari pour avancer leurs affaires. Et ça va pas bien si t'es pas un fan de la cabale.
Ben,
je voulais juste dire, il y a une autre land qui fit avec cette land-là, que j'ai oublié le nom, tu peux me rappeler?
C'est Yawgmoth, qui fait que toutes les lands sont des swamps.
C'est
aussi.
Fait que même Cabal Coffers est une swamp.
Je
vous laisse imaginer la suite.
C'est ça qu'on voulait dire. Pour l'instant, c'est pas encore sur Dominaria, fait que Le LAN n'existe pas, mais j'imagine qu'éventuellement. Hein?
Le Tomb of Yawgmoth, ouais, ça sort plusieurs années après. Ouais,
plusieurs bon. Années
mais
après.
Mais non, mais les gars, si tu passes à la suivante.
Ouais, non, non, attends un peu. Là, non, je vais te dire c'est quoi. Là. Parce que là, le Mirari, il est pas fin parce que ceux qui le contrôlent, il est pas fin, mais le Mirari, il est neutre. Il faut pas le mettre du côté des pas fins. Là. C'est comme la force.
La Triforce.
Ou la Triforce, ouais.
Il ira tes désirs. T'avais la gang qui ont fait Torment. Ils étaient des gros fans de Frozen Shade, que cette carte vraiment pas jouable en alpha. Qui est deux colorless, un noir pour un 0-1, que tu payes un noir pour un plus 1 plus 1.
Avec une quote d'Edgar Allan Poe.
Avec une quote d'Allan Poe, c'est alpha.
Ils jouaient Magic.
Ils se sont dit, comment qu'on pourrait faire...
pour toujours.
Comment qu'on pourrait faire un Shade? Parce que là, ils avaient fait la carte Cabal Coffer. Ils se sont dit, hey, ça serait bon ça avec un Frozen Shade. Mais Frozen Shade, c'est pas bon. Fait que si tu passes à la suivante, Tommy, je sais pas si vous vous rappelez des Nantuko que j'avais parlé la semaine passée. Fait que dans Torment, la couleur noire a tellement contaminé tout le monde que il y a un Nantuko dans le noir dans Torment. C'était une des cartes les plus jouées à l'époque dans le standard, le Nantuko Shade en combinaison avec Cabal Coffer. Deux noirs pour un 2-1 et tu payes un noir, il gagne plus 1 plus 1. Fait que si tu payes 3, ben, il gagne plus 3 plus 3. Mm-hmm. Ça, c'est ton finisher. Lis-nous le flavor text, Tommy.
If the Nantuko only knew what awaits them beyond death, they would abandon all the old dear. Si les Nantuko savaient seulement ce qui les attendait dans la mort, ils abandonneraient tout ce qui leur est cher.
Ouais. Yes, fait que ça, dans le fond, là, les decks, si tu passes à la suivante, les decks de contrôle, ça a commencé, Torment, ça a commencé les fameux decks right de there. Contrôle noir avec Cabal Coffer. L'autre aspect dans Torment, c'est qu'il y était aussi des fans, tu sais, il paraît que c'est Richard Garfield qui a amené cette mécanique-là. Il trippait beaucoup sur le Nightmare. Hein? Dans Alpha, on s'appelle le Nightmare. Son
qui
power
ne trippait pas sur le Nightmare?
Ouais. Et le nombre de swamps que tu contrôles. Fun fact, là, le pourquoi la carte Nightmare, c'est un cheval en feu? Ben, ça vient en fait de la peinture de Henri Fuseli de 1790 qui a peinturé. Dans le fond, c'est un cauchemar qui vient perturber une madame qui fait dodo.
Puis lui avec, il joue à Magic.
Pour représenter le cauchemar, c'est un cheval. Fait que c'est pour ça que Nightmare, c'est un cheval. Mais ils se sont dit, hey, vu que c'est le nombre de swamps que tu contrôles puis que c'est un set noir qui va avoir des swamps partout, ben, let's go, man. On va faire des Nightmares. Fait que les Dementia Summoners, je l'avais parlé la semaine passée, ce qu'ils font, c'est qu'ils summonent des Nightmares. Il y avait quelques Nightmares dans le set Odyssey, mais c'est surtout dans Torment qui sont presque à eux-mêmes une mécanique. Si tu passes à la suivante, Tommy, t'as tout un cycle. T'as tout un cycle de cartes qui sont les Nightmare Aurore. Fait que dans le fond, les agents de la cabale, les Dementia Summoners, quand ils summonent des Nightmares, des cauchemars qui sont des créatures qui vont te tuer, ben il y a toute une série de cartes qui sont, dans le fond, les Nightmares. Et ce qu'ils font, c'est un peu, c'est l'ancêtre de ce qu'on connaît de nos jours, les Oblivion Ring, puis les enchantements. Master, ils ont mis ça dans le blanc. C'est les enchantements qu'ils exilent une carte, puis la carte est exilée jusqu'à temps que l'enchantement s'en va.
Une prison, dans le fond.
Mais ça n'existait pas en 2002. C'était les cartes noires, les Nightmares dans Torment. C'est comme ça que ça a commencé. Fait que toutes les Nightmares, ils arrivent en jeu, ça fait quelque chose, et cette chose-là se passe tant qu'il est en jeu, tant que le cauchemar est là. Fait que tu sais, comme Mesmeric Fiend, un pour deux, que quand il rentre en jeu, tu check dans la main ton adversaire, tu prends une carte, t'as remove from the game.
By the way,
tant que Mesmeric Fiend est en jeu, quoi?
Mesmeric Fiend, c'est une de mes cartes de mon deck de Parduk Miner. C'était avec lui que je faisais discarter
des cartes. Ça marche. Faceless Butcher, hein, deux colorless, deux noirs, un 2-3. Quand il rentre en jeu, tu remove target créature. C'est dans le fond, from the game, c'est comme un genre de chupacabra. Là. Il enlève une créature en jeu. Et ça, c'est vraiment l'ancêtre là, de Oblivion Ring, ces genres d'effets-là. C'est vraiment c'est une 2-3 qui exile une créature tant que ton 2-3 est encore là. Ou le Grave Gouger, hein, qui fait sensiblement la même affaire, c'est que tu enlèves deux cartes d'un graveyard from play tant qu'il est là. On passe à la... Fait que, ça, c'est comme ça que les Dementia Summoners, ils castent leur cauchemar. Et dans le rare, t'as les vrais cauchemars vraiment forts, comme le Icoride. 3 colorless, un noir, c'est un 3-1 haste. À la fin du tour, faut que tu le sacrifies. Mais cependant, à ton upkeep, si dans ton graveyard, tu peux enlever une créature noire de ton graveyard qui n'est pas Icoride pour le ramener en jeu.
Ouais, tu parlais ça, des decks Potland tantôt. Là,
ouais, ça, c'est avec Icoride que tu joues ça. fait que tu vas tout le temps attaquer. Ton 3-1, il attaque tous les tours. Là, il retourne dans le graveyard, mais il ressort le tour après. Ou le Hypnox. Ça, c'est un des plus hauts casting costs ever. Ouais. 8 noir. Donc 11. Pour un 8-8, Flying, quand il rentre en jeu, si tu l'as joué de ta main, tu enlèves toutes les cartes que ton adversaire contrôle. Tu enlèves toutes ces cartes dans sa main.
Ouais, pourquoi pas.
Tant que ton Hypnox est en jeu. Ça, c'est le gros cauchemar. C'est pas ça. Fait qu'il y a plusieurs.
Pas
on
super
voit dans,
bon,
dans, ben non, mais c'est pas ça. L'a mal vieilli. Là, mais tu sais, je veux dire, faut que tu le mets dans son contexte.
À l'époque, c'était impressionnant.
Puis, ben, ceux qui se demandent, le logo de Torment, qui est l'espèce de monstre là, qui se mord la queue, là,
ouais.
C'est ce que ça représente, c'est un nightmare. Mais c'est pas évident.
Ah, c'était pas le familier.
Non, c'est un nightmare. Fait que Mortal Kombat, c'est l'enchaînement dans Torment où qu'on voit le patriarche, la cabale, qui regarde deux barbares se battre dans l'arène. Deux colosses, deux noirs. Ça, c'est, comme je vous ai dit, là, à travers le bloc d'Odyssée, il y a tout le temps des enchaînements rares qui te font gagner la game si t'atteins certaines conditions. Ici, Mortal Kombat, deux colosses, deux noirs. Au beginning de ton upkeep, si t'as 20 ou plus créatures dans ton graveyard, tu gagnes la game.
Vas-y. C'est plus faisable que l'autre à 2 ans.
Ouais, c'est vraiment plus faisable, mais c'est quand même difficile parce que 20, c'est beaucoup de créatures. C'est vraiment beaucoup de créatures. Faut que tu mettes du bleu pour miller. Puis là, on voit le cabal patriarche qui regarde. Tu sais, je vous ai dit, là, tout est basé autour des combats de gladiateurs. On passe à la suivante. Donc, il y a un personnage qui va se sortir du lot là-dedans. C'est le personnage principal. Tu sais, il y avait Kamal dans Odyssey. Et dans Torment, c'est Chainer. Chainer, c'est un simple minion. Tu vois, c'est un minion legend. Trois colorless, deux noirs, un 3-3. Toutes les nightmares gagnent plus 1. Ooh. Et tu peux payer 3 et 3 vies pour prendre une créature dans ton graveyard. Tu l'exiles et à la place, tu mets un... non, tu la mets en jeu et elle est un nightmare. Ouais. Et si Chainer s'en va du jeu, ben là, faut que t'enlèves toutes tes nightmares que tu contrôles. Fait que c'est un peu la mécanique nightmare à lui-même. Mm. Fait que Chainer, c'est le personnage qu'on est censé s'attacher à. C'est un simple soldat, un Dementia Summoner de la Cabale qui veut graver les échelons. Il est
c'est
full ambitieux. Comment?
C'est le anti-héros.
C'est le anti-héros.
C'est le anti-héros des anti-héros. Fait que c'est un héros.
Puis c'est ça. Fait que lui sa gimmick, c'est qu'il veut devenir big dans la cabale. Il est pas méchant de nature, mais il a pas le choix parce que c'est dans cet environnement-là qu'il grandit. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il est vraiment pas chanceux. On va le voir sur les autres cartes. Passe à la suivante.
Ah non, deux secondes. Moi, je vais analyser.
Vas-y, lâche pas le.
Premièrement, on a vu la carte en avant, c'était Mortal Kombat. Je me demande c'était quoi qui est dans le Zeitgeist de cette époque-là, parce qu'on a un monsieur qui lance des des chaînes pour dire Get over here. Il était bien en noir puis en jaune.
D'après, je vais voir quand est-ce que le film est sorti.
Puis
Mortal Kombat, c'est en 95.
Ouais, mais le film sorti à peu près 4 ans plus tard. Puis on sait qu'il est badass parce que toutes les autres de la cabale sont obligés de se masquer le visage pour pas être reconnus par les Nightmares. Ouais. Mais lui, il est niveau 4, fait qu'il est pas obligé de se masquer le visage.
Mais tu vas voir ses autres cartes, Chainer est toujours masqué.
Oh! Ouais, c'est juste parce que là, c'est sa carte, faut le reconnaître un peu.
Moi, j'avais fait un deck avec lui, deck de troll, parce qu'il y a quelque chose ici, c'est des Nightmares qui sont removés de la game. J'avais un deck de trull avec les trulls champions que tu peux le taper puis prendre le contrôle d'un trull. Oui. J'avais toutes les cartes qui pouvaient changer un creature type. Fait que des fois, quand mon Chainer Dementia se faisait tuer, ben, je changeais Nightmare pour, mettons, les Knights. Fait que là, il quittait le jeu, fait que toutes les Knights de l'autre, ils étaient exilés.
Hey, c'est sneaky, ça. C'est pas pire.
Ouais, c'était pas pire.
C'est pas pire. Hey, on passe à la suivante, parce que là, vous allez voir, tu sais, je vous dis, Chainer est vraiment pas chanceux.
Ouais, ouais.
Il y a toute une série de cartes à travers les trois blocs où ce qu'on voit que Chainer, il est dans le mal. Ouais. Par exemple, Zombie Assassin dans Odyssey, c'est un zombie 3-2 qui tu enlèves deux cartes dans ton graveyard, puis il tue, il fait un terror. Tu remarqueras que sur le dessin, en bas à droite, le zombie assassin va sauter dans le dos de Chainer. Puis dans Torment, ce Crozen Constrictor, où ce qu'on voit un Dementia Summoner qui est en train de se faire constrictor par un gros serpent, parce que ça, c'est un Snake Swampwalk. Le personnage qui est dessus, c'est Chainer, qui est comme pogné en combat par un serpent. Je les ai pas toutes mis, mais il y a plein de cartes. Vous pouvez vous amuser. C'est tout le temps. C'est comme Où est Charlie? Mais faut que tu trouves
dans quelles mésaventures.
Des mésaventures, puis il est tout le temps dans la marde. Il est jamais comme triomphant, vas-y.
Je t'ostine pour le Crossan Constrictor parce que il a pas le même casque. La tête, le dessus de la tête, il me semble qu'il est différent. Ça pourrait être n'importe quel minion.
J'avoue ben, que c'est le concept
qui
ressemble tout.
C'est avec son tatou. Moi, c'est parce que j'ai pris ça, c'est un article de Wizard. Recule, Tommy, pour
son tatou sur le bras.
C'est les tatous. Ouais, c'est les tatous sur le bras qui le give away.
Ah, voilà.
Parce qu'il y avait un article de Wizard of the Coast qui c'était toutes les cartes que Chainer est dessus.
Moi, j'ai une question.
Mais ça se peut que...
Parce que, tu sais, son collègue, il est pas jaune.
Ben, c'est l'article de Wizard of the Coast.
Ben, ça se peut qu'ils se sont trompés. Qu'est-ce que tu voulais dire, Andy?
C'est qui Braid? Parce que Braid, c'est dans le premier épisode, évidemment.
C'est un autre. Non. J'avais pas parlé encore.
Okay, ça
va venir.
Ok, few.
Chainer et Dick, hein, ça c'était le terreur de l'époque. C'est, tu vois, c'est ton adversaire, il doit sacrifier une créature, puis ça a flashback 7. Ça c'était très joué à l'époque, c'est très bon. T'en joues 4, là, tu le fais deux fois. En fin de game, là, quand t'as assez de land, là, tu peux le ramener du graveyard. Il n'y a pas de Chainer malheureusement sur la carte. Je sais pas pourquoi ils ont mis un autre personnage, mais bon, c'est comme
ça. Ça veut dire Edict.
C'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots d'une carte qui faisait la même affaire, mais qui n'avait pas flashback, qui était diabolique et dick dans Tempest. Passe à la suivante. Fait que là, Kamal.
Ben oui.
Fait que là, il y avait Kamal, il y avait Seton qu'on a parlé. Ouais. Et Chainer vont se rencontrer dans les pit fights.
Ils vont donner
à ils vont devenir comme buddy-buddy. Puis dans le fond, ce que Chainer va dire à Kamal, puis à Seton, puis à l'autre gang, c'est hey, on pourrait se pousser avec le Mireille. Tu sais, si on joue bien nos cartes comme il faut. Là. Puis Kamal, c'est un gros barbare un peu niaiseux. Il va faire l'erreur de dire « Ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire ça. » C'est une bonne idée de faire ça. Fait que là, il va aider, dans le fond, Chainer à se pousser avec le Mirari. Si tu passes à la suivante, Tommy, il y a un autre personnage qu'on nous présente dans Torment, qui aurait dû être mis dans Odyssey, mais bon, ils l'ont mis dans Torment. C'est un autre Pit Fighter qui est, dans le fond, le maître. Kamal est l'apprenti de Baltar de Stout. De Stout, c'est un peu comme la figure paternelle de Kamal. Il a appris à être un pit fighter puis un barbare. Il vient aussi des montagnes de Pardia. Hein, je l'avais parlé des nains dans le
premier. Et à respecter les écureuils.
Vous checkez ça, c'est pour toi, c'est un 2-2. Tous les barbares gagnent plus 1, plus 1. Puis il donne Fire Breathing aux barbares.
Quand même.
Lino Flavor Text, Tommy.
I like to think of him as a concentrated barbarian.
C'est un extrait de barbare.
C'est ça. J'aime le concevoir comme un extrait, un ersatz de barbarie.
Fait que ça, c'est les personnages qui vont faire comme le moi, j'ai pas lu le roman, là, mais il paraît que dans le roman, c'est les personnages principaux. C'est, dans le fond, c'est Baltar, Kamal, Chainer, puis Seton, le centaure. On passe à la suivante, Tommy. Pendant ce temps-là, hein, dans l'océan, il va y avoir un coup d'état. Hein, je vous avais dit ça, c'est ça pour brosse. Présenter que les céphalides, là, ils se crossent entre eux autres, en plus de crosser les autres. Fait que l'empereur, comment il s'appelait, c'était...
Aboshan,
se fait renverser par Lawan, céphalide empress. Hein, c'était sa femme, après sa place.
Ah ben!
Okay.
Quand elle rentre en jeu, tu ramènes toutes les créatures bleues dans la main de son contrôleur et ton adversaire peut pas jouer des spells bleus.
Quand même, hein?
Je sais que Tommy, tu joues ça avec Shifting Sky.
Ben oui, puis pour changer le mot bleu en rouge ou en d'autres affaires comme ça, là, c'est dépendamment comment je peux faire chier l'autre.
Ouais, c'est avec des Slay the Mind, c'est pas le fun. Ouais. Fait que ça, c'est le Lawan pour la période de Torment. C'est elle qui est la boss des céphalides. Et après ça, un autre personnage, je passe à la suivante. Il se passe des affaires. C'est que je vous avais mentionné que les Merfolk, les Merfolk avaient été tassés par les céphalides, mais ils se sont gardés un Merfolk parce que ça prend quelqu'un qui connaît comme les anciens ships. Fait que t'as un Merfolk à travers tout le bloc Odyssée. C'est l'ambassadeur Laquatus. Un colorless, deux bleus, c'est un 1-3. Tu peux payer 3 colorless pour mettre midi 3 un target quelqu'un. Player. On voit là, sur l'image, là, il est en arrière de lui, il y a plein de céphalides. Il est à la cour de l'impératrice Lawan. Ce qui va se passer avec l'Aquatus, c'est que lui aussi, il va se mettre à faire le circuit des pit fights. Et il va se mettre à se mélanger avec la gang de Kamal. Mais éventuellement, ils vont les trahir et ils vont devenir... Parce que tu sais, Kamal est rouge, lui, il est bleu. Et ça devient comme les joueurs de Nemesis à travers le storyline. On va les revoir en conflit, l'Aquatus et Kamal, dans Judgment la semaine prochaine. Donc ça, c'était la carte qui permettait de miller. Là. C'est surtout ça.
Il manque juste du blanc pour faire une équipe parfaite.
Ben oui, donc ça, je l'ai-tu mis le blanc? Non. L'Aquatus, il va faire un deal avec... Chainer, puis il va se servir de la Mirari. Quand ils vont pogner le Mirari, c'est que le Chainer, il va sortir, tu sais, parce qu'il est capable de summoner des Nightmares. Fait que à partir des cauchemars de l'Aquatus, il va faire le L'Aquatus champion, qui est un 6-3 pour 6. Que quand il rentre en jeu, il enlève. Tu sais, quand je vous dis les créatures commencent à être plus fortes, là.
Ouais.
Quand il rentre en jeu, il enlève 6 de vie à un target player. Quand c'est un nightmare. Quand il s'en va du jeu, l'autre va gagner 6 de vie. Et il a regenerate pour un noir. Tu vois, ça dit dans le Fever Text, le cadeau de Chainer à quelqu'un qui avait une arme encore plus
sombre. Moi, ça, là, troisième tour, tu fais un Buried Alive, puis tu vas en chercher trois dans ton graveyard. Puis après ça, tu peux faire un Patriarche Bidding pour que tout le monde ramène leurs horreurs en jeu. Ouais. Fait que tu fais 18 de dommages à l'autre. Des Dark Rituals, là, j'ai déjà fait ça au quatrième tour.
C'est pas fin, ça.
C'est pas fin, ça.
Ouais.
C'est pas mal le fun. Fait que ça, c'est
pour ça qu'on joue plus avec.
Oui, ça c'est le top cauchemar là, de tous les Nightmares, c'est le plus fort.
Ouais.
Et j'aime vraiment pas le dessin. Moi, je sais pas. C'est comme. Puis là, vous remarquerez que c'est quoi les cauchemars de l'Aquatus qui est un Merfolk? Ben, c'est dans le fond, ça fait référence aux céphalides.
Ben,
c'est un cauchemar qui est plein de tentacules. Là.
Ben ouais.
Pourquoi qu'il y a des jambes? C'est son cauchemar de Merfolk d'avoir des jambes.
D'avoir des grosses jambes.
Il n'y a peut-être pas de jambes, les Merfolk.
De ne pas avoir sauté le leg day.
Ouais.
Donc, y avait-tu quelque chose après ça? Ouais. On arrive à la fin. Chainer, pour le fun, ils ont fait une saga autour de son histoire dans Dominaria. C'était la carte de Chainer Torment.
Son
troisième chapitre faisait un Nightmare X étant ton nombre de vies. Je voulais juste la mentionner ça. Là, si vous regardez le dessin, c'est encore Chainer qui a de la misère. Hein. On voit, il est comme. Il a vraiment l'air d'avoir la misère. Et il y a le Mirari au-dessus de lui.
Fait que Chainer, c'est l'inverse de Jerry. Peu importe ce qu'il essaie de faire, il y a toujours quelque chose qui marche pas.
Puis je sais que dans le roman, c'est qu'éventuellement, une fois que là, l'Aquatus champion apparaît, l'Aquatus va prendre, parce que c'est un mage bleu, hein, il va se servir de ça pour tuer Chainer et lui voler le Mirari. Ça, c'est comme ça que l'histoire de Torment finit. Chainer ne se rend pas.
Je reconnais le bleu.
On reconnaît le bleu. Il fait un contrôle magic. On passe à la suivante. Pour la cabale, moi, ce que j'ai aimé, c'est que la cabale, ça a commencé dans Odyssey, puis Wizard les a gardés comme vilains pour Dominaria. Fait que là, ce que je vous ai mis à l'écran, là, c'est des exemples de comment la cabale sont réinterprétées de nos jours, à la fois dans Dominaria et dans Modern Horizon. Quand vous voyez le mot cabale là, sur des cartes modernes, là, c'est toi, ce qu'ils ont gardé comme constance, c'est qu'ils sont tout le temps chauves. Et ils ont tout rapport là, avec des sacrifices et du discard parce que c'est des cartes noires. Mais comme le Stronghold Confessor, le Whisper Blood Liturgist, le Cabal Initiate, c'est toutes des représentations modernes de la cabale.
Ah ouais, oui. Ok.
C'est comme la cabale adaptée de nos jours.
Fait qu'elle est encore là.
Oui, il est encore sur Dominaria. C'est juste que le patriarche est mort, ça fait longtemps. Là.
Fait que ils ont mis trop d'encens dans leurs cheveux. Ils ont tout gagné en feu.
C'est ça.
Fait que là, ça aura du chauffe.
Peut-être
ouais, ben, le deuxième, là, Blood Liturgist, ça a mis les cheveux.
Non.
Non, elles sont toutes chauves. Elles sont toutes chauves, la cabale.
Un chapeau.
Puis Torment, ils ont refait la carte dans Modern Horizon 2. C'est le Chainer Nightmare Adept. Ils l'ont comme réactualisé au goût du jour. Là. Ça, c'est un 3-2. Tu discartes une carte pour caster un spell du graveyard. Donc, ça donne comme flashback. Et à chaque fois qu'un non-token créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, si tu l'avais pas casté de ta main, elle a Ace, Sentinel of Turn. Je sais pas si c'est fort, mais c'est
pas pire.
Ouais, c'est très bon.
C'est pas pire.
C'est très très bon. Moi, j'allais dans mon deck de diable, en tout cas. Quand je le sors, d'habitude, ça torche.
Non, mais en draft aussi, ça le fait.
Ben oui. Puis c'est que tu peux trigger un discard de carte n'importe quand. Fait que tu peux faire plein de madness grâce à lui aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Je t'aime, Chainer. T'es le bienvenu à Noël, si jamais tu sais pas où aller. Je sais pas s'il fête Noël.
La semaine prochaine, on va conclure cette trilogie avec le set Judgment, sorti en mai 2002, qui vise à rééquilibrer la balance. Hein. C'est ce qu'on va voir, c'est que Kamal va enfin comprendre que être barbare, c'est pas suffisant. Caval va devenir un druide et Judgment fait l'inverse de Torment, c'est-à-dire que cette fois-ci le nombre de cartes noires est réduit et ils mettent plus de cartes vertes et blanches, ce qui fait que au final le bloc de Odyssée, il y a autant de cartes noires que de cartes blanches et vertes.
Okay. Ils ont rééquilibré.
Hey, merci beaucoup Jason pour ce retour dans le passé. Merci aussi, Andy, d'être passé nous voir.
Toujours un plaisir.
T'as-tu installé, désinstallé Arena dans ta tête et dans ton cœur pendant le show?
Pas pendant le show, mais on verra la semaine prochaine. On
merci d'être là, man. Merci bien gros. Merci aussi à Lompré.
Hey! Salut les magiciens et magiciennes. Oubliez pas de mulliganer quand c'est pertinent.
Qu'est-ce que c'est bien dit, ça, c'est très, très bien dit. Merci Emmanuel également.
Plaisir. Moi, je ne mulligane jamais.
YOLO! C'est my way of doing shit! Et ben merci beaucoup, Jonathan, aussi. Peut-être que tu peux nous parler encore de ce qui joue en background pendant ce show.
Dead of the Brain, un beau petit jeu que je suis persuadé que tout le monde a joué sur TurboGrafx-16, ben ouais. Version PC Engine au Japon.
Bon, ben voilà. Merci tout le monde. Merci la communauté. N'hésitez pas à nous partager vos trouvailles sur le Facebook de Terrain Basique. Merci à Martin au montage, puis à tout le monde là, partout. Là, Bone, puis Milan, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis si vous avez des rengaines à sortir pour l'hiver, gênez-vous pas. En attendant, ben voilà, mon nom est Tommy Godette, puis je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.